Éducation aux médias et à l'information, quel avenir ? Une émission spéciale avec le VLIP, Fragile, Les Autres Possibles et le CRIJ sur Prune 92 FM et prune.net.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission très spéciale sur Prune, puisqu'une fois n'est pas coutume, nous allons parler de nos propres métiers, mais pas celui que vous imaginez peut-être. On associe logiquement les métiers, les médias au journalisme, mais une autre activité en découle, cohabite dans nos différentes structures, et en particulier associative, celle de l'éducation aux médias et à l'information. Ou pas, on reviendra sur ce terme. Alors aujourd'hui, il existe de nombreux postes de chargés d'éducation aux médias à part entière. Et cette activité qui existe en fait depuis des années est de plus en plus visibilisée. Peut-être parce qu'on reconnaît sa nécessité, peut-être parce qu'on la questionne, parce qu'on revendique les moyens derrière les grandes déclarations. Alors en 2018, le ministère de la Culture a lancé un plan de soutien impliquant la mobilisation de nombreux actrices comme la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Au début de cette année, c'est le ministère de l'Éducation nationale, cette fois, qui entend, dans une circulaire assez vague, généraliser l'éducation aux médias et à l'information. Pour remonter un peu plus loin, il est fréquent d'entendre que l'éducation aux médias est devenue une priorité suite à l'attentat contre les journalistes de Charlie Hebdo, donc le 7 janvier 2015, et plus récemment l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty le 16 octobre 2020. Des faits qui ont effectivement fait remonter l'éducation aux médias à l'agenda politico-institutionnel et qui ont contribué à la médiatisation d'actions existant en fait souvent depuis bien longtemps. Et preuve en sont notamment nos invités d'aujourd'hui, dont les activités d'éducation aux médias font pour beaucoup partie du projet depuis longtemps. Alors on va commencer par Fragile, puisque l'association a été créée en 2002. Bonjour FX José, vous êtes... d'ailleurs, j'ai un trou, vous êtes chargé d'éducation aux médias au sein de cette association, je n'avais pas rempli cette case. Et merci d'être avec nous, on peut dire que chez Fragile, l'éducation aux médias, c'est le cœur même du projet associatif depuis le début.
Exactement, alors c'est le cœur, ça a été fondé autour d'un magazine participatif et citoyen sur la culture et la société nantaise. Et puis en fait, l'éducation aux médias est venue se greffer directement dans le projet, voilà.
On accueille aussi autour de cette table donc Pierre Mousset du magazine local et indépendant Les Autres Possibles. Bonjour, alors vous, l'éducation aux médias fait partie du manifeste qui est présent sur votre site. Est-ce que vous savez si ces activités ont été présentes dès la création du journal en 2016 donc ?
Bonjour à toutes et à tous. L'envie était là dès le début, la possibilité de mettre en place des ateliers d'éducation aux médias est arrivée un ou deux ans après le lancement du journal. Et voilà, ça prend son essor depuis maintenant 4 ans. Vraiment, voilà, on a 2 postes maintenant à temps plein consacrés à l'éducation aux médias, autant que possible.
Autour de la table également, donc Pierre-Adrien Roux, il mène lui aussi des actions d'éducation aux médias, mais à son compte, dans la région. Bonjour à vous.
Bonjour.
Je continue puisque nous sommes nombreuses dans le studio, donc Régis Reynaud, directeur adjoint du CRIJ, le Centre Régional d'Information Jeunesse, qui est désormais nommé InfoJeunes Pays de la Loire. Vous aussi, Régis, l'éducation aux médias et à l'information fait partie de vos prérogatives.
Oui, bonjour. Effectivement, donc on est bien InfoJeunes Pays de la Loire aujourd'hui. Et oui, l'éducation à l'information fait partie, je dirais, de notre ADN. On a d'autres activités, notamment de la production d'informations. On est un centre de ressources, on anime l'information. Et oui, je confirme.
Alors, une grosse pensée aussi pour le VLIP, média associatif vidéo local, qui a dû annuler sa participation en dernière minute, mais on pense bien à vous. On a aussi autour de la table donc Manon Delmas, qui est la directrice de Prune. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, tout au long de cette émission, nous aurons avec nous, presque en plateau puisqu'elle est en visio depuis Rennes, l'enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation à l'Université de Rennes 2, Barbara Fontard. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes aussi membre du laboratoire du CREAD et vous menez notamment en ce moment un projet de recherche autour des actions d'éducation aux médias et à l'information chez nos confrères bretons, chez les radios associatives bretonnes, pour être très précise. Et pour finir aussi, une petite précision pour que vous sachiez d'où je parle, moi. Pour ma part, je suis en charge de la rédaction et de l'éducation aux médias à Prune. Alors juste pour resituer un petit peu cette émission dans son contexte, on a réalisé cette semaine, donc Fragile, le VLIP, les autres possibles et Prune, une série d'ateliers d'éducation aux médias dans différents espaces nantais et auprès de différents publics. Cette semaine est aussi l'aboutissement d'un projet nommé Action Rédaction visant à fédérer différentes structures d'éducation aux médias à Nantes, une initiative qui revient d'ailleurs au réseau Jeunes. Et donc comme une ouverture, une conclusion à cette semaine, mais aussi à ces mois, voire ces années, en fait, d'interrogations communes autour de l'éducation aux médias et de nos actions concrètes sur le terrain, cette émission se tourne vers le futur, avec donc cette thématique « Quel avenir pour l'éducation aux médias et à l'information ?» Alors juste pour commencer, il faudrait qu'on se mette d'accord sur donc les termes qu'on emploie. Et c'est assez rare finalement qu'on réinterroge la notion en elle-même. Donc j'aimerais bien que chacun de vous dise en quelques mots ce que vous entendez vous par éducation aux médias ou éducation aux médias et à l'information. Évidemment, on va y revenir en détail pendant l'émission. Et puis tant qu'à faire, vous pouvez aussi nous dire quelles actions vous avez menées cette semaine dans le cadre du projet Action Rédaction en quelques mots. Vous me regardez avec des grands yeux. Qui veut commencer? Pierre Mousset, des autres possibles.
Moi, je vais essayer d'être rapide. Aux autres possibles, ce sont les journalistes qui font de l'éducation aux médias. Il s'agit d'aller voir différents publics, on en reparlera. Et de ne pas donner notre définition du journalisme ou ce que devrait être une bonne manière d'informer. L'idée, c'est de réfléchir avec les jeunes et les moins jeunes ensemble sur le journalisme, les médias, l'information. Mais voilà, autant être curieux, nous, en tant que chargés d'éducation aux médias, de comment les jeunes s'informent. Et ils vont nous bousculer, peut-être parfois, dans nos certitudes. Et puis aussi, peut-être avec eux, casser quelques idées reçues sur les médias et l'information. Voilà, c'est vraiment une réflexion collective et une pratique ensemble du journalisme. On aime bien avoir une phase de décryptage et puis une phase de pratique. Voilà, marcher sur ces deux jambes-là. Et le deuxième point de votre question, c'était qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Nous, on a proposé un atelier sur le sexisme dans la presse sportive. Voilà, on s'est demandé est-ce que la France et la presse sportive française étaient championnes du monde de sexisme. Sans spoiler, il y a très peu de femmes à la une de la presse sportive. Voilà. Et puis pour ce qui est de la championne du monde, ça a réponse dimanche soir, mais c'est une autre question.
FX, de Fragile.
Je continue sur la présentation de l'éducation aux médias pour Fragile, en complétant un peu ce que Pierre disait. Nous, on va plutôt avoir la posture de se dire que l'éducation aux médias appartient aux citoyens, aux citoyennes. Donc on va pas forcément, nous, avoir la posture du journaliste. On est des citoyens, on est des citoyennes, et on va questionner sur des sujets qui vont permettre à des publics de mieux lire l'information, de s'émanciper, de prendre en main, en tout cas, leur manière de s'informer et pourquoi pas la manière d'informer les autres. L'idée, c'est de se dire que la création de l'information peut appartenir à tout le monde, en tout cas, c'est ce qu'on va défendre chez Fragile, et qu'il va falloir, pour ça, développer son esprit critique, avoir conscience de qui on est, d'où on parle, d'avoir conscience aussi d'autres biais, qu'ils soient économiques ou alors liés à certains types de discrimination. Et on va défendre cette posture-là, qui est très liée à l'éducation populaire, en fait, dans nos ateliers. Sur l'événement qu'on a animé cette semaine, on était donc au 38 Breil, à la pépinière Horizon, on a animé un atelier d'initiation au podcast, voilà, avec un public assez varié. On avait des élèves de 5e du collège Rosa Parks. On avait aussi des personnes qui étaient en réorientation professionnelle. On avait deux acteurs qui avaient plus de 20 ans. Et en fait, tout ce public, en travaillant ensemble, a pu déjà travailler sur la manière de se présenter, l'oralité, et puis découvrir des manières techniques de créer un support médiatique, à savoir un podcast, avec simplement leur smartphone. L'idée aussi, chez Fragile, ce qu'on va défendre, c'est on peut créer des objets médiatiques avec le minimum de moyens possibles. Et donc en 2022, le smartphone étant relativement démocratisé, on part de cet objet qu'on a à peu près tous et toutes dans la poche pour pouvoir créer des objets médiatiques.
Régis Reynaud, est-ce que vous voulez aussi donner la définition d'éducation aux médias par InfoJeune.
Oui, alors pour nous, l'éducation aux médias, alors c'est, ça passe plus par l'éducation à l'information, pour être un peu plus précis. Et les médias, pour nous, viennent après. On n'est pas des journalistes, on n'est pas un média à proprement parler. On est, comme je le disais tout à l'heure, producteur d'infos et pas de l'information chaude. Hein. On produit de la documentation. Et notre souci, c'est de produire de l'information qui va intéresser les jeunes de façon gratuite, de façon exhaustive et surtout à jour. Et surtout en direction de tous les jeunes. On a le souci de que cette information soit accessible à tous les jeunes, surtout les thèmes qui peuvent les intéresser. Alors, nous, on produit de l'information sur les loisirs, mais aussi sur l'emploi, le logement, sur la formation, les jobs, etc. Et on anime cette information à travers des actions. Alors, ça peut être, par exemple, un forum des jobs d'été. On a toujours une vocation un peu pratique, parce que pour nous, l'objectif principal, c'est l'émancipation des jeunes, hein, l'accès à l'autonomie. Et on a identifié donc l'accès à l'information comme étant une des clés, si ce n'est la clé la plus importante pour l'accès à l'autonomie, c'est l'accès à l'information. L'information, aujourd'hui, c'est quelque chose, on l'a déjà rapidement évoqué, mais c'est quelque chose de compliqué parce qu'il y en a énormément. Il y a de l'info qui n'en est pas, il y a de la mauvaise information, il y a de la désinformation. Enfin, on peut faire beaucoup de mots à tiroir avec le mot information. Voilà, donc on essaie aussi d'adapter nos productions aux usages. Donc on a aussi ce rôle d'observatoire des comportements et de la relation des jeunes avec l'information. Et on a arrêté alors il y a quelques années déjà, hein, de faire des classeurs plein de poussière, voilà. Mais c'est pas aussi simple que ça, en fait. Hein. Mais on l'observe, vous l'avez aussi constaté, hein, des nouvelles façons des jeunes de s'informer. Alors ça va être des médias type Hugo Décrypte ou Combini, etc. Et sans faire de cette façon-là, sans essayer d'imiter ces médias-là, on essaye d'adapter notre production aux usages des jeunes. Voilà. Après, on anime aussi l'information à travers des ateliers, à travers des projets, à travers des dispositifs. Alors, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Promeneur du Net, où en fait, ça va consister à avoir une présence éducative en ligne sur les thèmes qui sont beaucoup liés aux usages des jeunes. Alors là, ça peut être les cyberviolences, ça peut être le sexisme aussi. On travaille sur ces thèmes-là.
On va revenir sur les thématiques juste après. Pierre-Adrien Roux,
oui.
Même question.
moi, ce qui m'intéresse aussi, alors je suis un peu dans la même ambiance que mes collègues autour de la table, à savoir celle de l'éducation populaire finalement. Donc ce qui m'intéresse dans l'éducation aux médias, c'est qu'en fait, c'est quelque chose, c'est un ensemble de pratiques éducatives, mais qui vont concerner plein de gens différents, des journalistes, des professionnels de jeunesse, mais aussi les parents. Aussi les professeurs, les instituts, et c'est cette diversité de personnes, d'acteurs qui se mobilisent autour de l'éducation aux médias, qui font l'éducation aux médias. Après, on peut schématiquement trouver trois axes à l'éducation aux médias, pour moi en tout cas, comprendre les médias, les enjeux éditoriaux, politiques, techniques, philosophiques qu'il peut y avoir derrière les médias, se forger son esprit critique, c'est ce qu'on a plutôt en tête quand on parle d'éducation aux médias, donc tout le rapport à l'information, à la désinformation, aux théories du complot, etc. etc. Et le troisième champ pour moi, c'est être son propre média, et c'est et ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, dans ce média associatif nantais qui est Prune, l'éducation aux médias doit permettre aux individus, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, doit favoriser l'expression individuelle, collective des citoyens. Et c'est en cela que l'éducation aux médias, pour moi, elle fait partie de l'éducation à la citoyenneté, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc voilà, ces trois axes qui, à mon avis, articulent l'éducation aux médias.
Et Manon Delmas pour Prune, est-ce que...
Oui, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense qu'à Prune, ce qui est important, c'est... Enfin, dans l'éducation aux médias, c'est la pédagogie, c'est le fait d'amener des gens qui sont éloignés de l'information, enfin, en tout cas, à qui on ne donne pas la parole, à un moment de la prendre, et donc de... Nous, on passe par la pratique, de dire que bah, voilà, tu peux parler dans un micro, tu peux donner ta voix, et surtout tes sujets aussi, la manière dont est traitée l'information dans les médias, et pas forcément la manière dont un jeune de CE2, par exemple, pas avoir envie de s'exprimer et de leur dire que les thèmes qui les intéressent sont légitimes et la manière dont ils parlent l'est aussi, avec leurs mots, avec leur expression. Et voilà, on n'essaye pas de, nous en tout cas, d'amener l'information, mais plutôt de leur dire allez-y, parlez, ce que vous dites, c'est intéressant.
Et alors, est-ce que Barbara Fontard, avec tout ce que vous avez entendu, vous, est-ce que vous avez aussi votre propre définition qui est peut-être liée à vos travaux du coup, de recherche ou de terrain, et, ou alors est-ce que vous voulez réagir à tout ce que vous venez d'entendre?
Alors non, je n'ai pas de définition de l'éducation aux médias à produire. Je suis chercheuse, je ne suis pas là pour dire comment est-ce que les acteurs, les praticiens de l'éducation aux médias devraient, doivent ou devraient définir leur pratique, mais plutôt justement pour constater et rendre compte du fait que l'éducation aux médias, elle est plurielle. C'est à la fois un champ de pratique, et là on voit bien avec l'ensemble des personnes qui sont porteurs d'un vouloir-faire en éducation aux médias que ça recouvre des pratiques, des vouloir-faire pluriels. Ce que dit Marion Delmas, Manon Delmas, pardon, n'est pas exactement ce que dit François-Xavier, ou enfin voilà, pas exactement au même endroit, et encore très différent de ce que peut dire Régis, si je ne dis pas de bêtises, du CRIJ. On voit bien qu'il y a une pluralité des manières d'envisager l'éducation aux médias, que certains, et notamment les institutions comme l'école, le ministère de l'Éducation nationale va appeler l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, et où la notion d'information renvoie exactement à ce que précisait tout à l'heure Régis, c'est-à-dire l'information non pas médiatique, l'information journalistique, mais l'information comme donnée, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit la nature de cette donnée informationnelle. Donc, voilà, ce que moi je peux dire de l'éducation aux médias, c'est qu'elle est indéfinie et que finalement elle peut être définie par des institutions qui vont en produire une définition plus ou moins imposée aux acteurs, mais que ce sont bien les acteurs qui, sur le terrain de leur pratique, vont développer des formes plurielles d'éducation aux médias, des vouloir-faire pluriels d'éducation aux médias, et j'irais même jusqu'à dire des éducations aux médias qui vont jusqu'à s'opposer.
Mmh. Tout à fait. Alors justement, vous parlez des acteurs, des actrices. Pour parler avenir de l'éducation aux médias, on va forcément parler des premiers concernés, donc les acteurs et les actrices comme nous, de l'autre, les publics. Et lorsqu'on évolue dans ce secteur, vous l'avez dit, on sait que les actrices sont très nombreux, puisque, et venant souvent d'horizons très différents. Donc on en a parlé, journalistes, animateurs, animatrices, souvent issus de l'éducation populaire, professeurs documentalistes, etc. Et depuis quelques mois, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a les prémices d'une formation certifiante qui pourrait un jour devenir obligatoire, ce qui serait quand même une première, puisque pour le moment, rien ne valide, entre guillemets, une quelconque capacité en fait, à faire de l'éducation aux médias. Et justement, alors vous tous et toutes autour de la table, à votre avis, qu'est-ce qui fait que l'éducation aux médias... Enfin, est-ce qu'il y a quelques... Non, je vais reformuler plus directement. À partir de quand on est ou pas légitime, selon vous, à faire de l'éducation aux médias? Voilà, c'est ma question.
Quelle est la différence entre un bon chargé d'éducation aux médias et un mauvais chargé d'éducation aux médias? Moi, je veux bien commencer, mais je n'ai pas de réponse nette sur cette question. Moi, je viens vraiment du journalisme. J'ai été journaliste pendant plusieurs années et j'ai fait en parallèle de l'animation avec un jeune public. Et à un moment donné, j'ai eu envie de faire plus de l'éducation aux médias que du journalisme parce que j'avais un petit peu fait le tour. Et voilà, c'était ça mon envie professionnelle. Mais à vrai dire, mes premiers ateliers d'éducation aux médias, ils étaient moins bons, je pense, que ceux que je fais maintenant avec 2 ans d'expérience. Et ça, ça vaut comme pour pas mal de métiers, en fait. Je pense que l'expérience va nous enrichir. Et en tout cas, nous, aux autres possibles, on tient à se présenter aussi comme journaliste parce qu'on a cette expérience, on a ce background, comme on dit, mais disons... Et puis on peut répondre à des interrogations des jeunes face à ça. ce regard-là. Cela étant dit, en vrai, nos ateliers, même si parfois ils se répètent et on nous redemande souvent des thèmes, en vrai, chaque jour avant d'intervenir, on les retravaille, on cherche à les peaufiner. Après, a priori, je pense que dans n'importe quel métier, quelqu'un de consciencieux, il remet toujours son travail sur le métier, c'est ça l'expression, je sais plus exactement, mais voilà. Donc après, si un jour faut un diplôme, on le passera volontiers. Je serais curieux de savoir qui va nous certifier. Après, peut-être que cette personne-là devrait être certifiée par quelqu'un d'autre aussi. Je referme la parenthèse, mais oui, on parlait de la diversité d'acteurs et actrices d'éducation média. En vrai, tant mieux. Et chacun va apporter son expérience, et qu'il y ait des gens qui viennent à fond de l'éduc pop, tant mieux. Qu'il y en a d'autres qui viennent du milieu du journalisme, tant mieux. Et puis en vrai, généralement là à Nantes, on est plutôt complémentaires, et nous on travaille souvent avec, une classe. L'an dernier, elle a travaillé avec Fragile. Cette année, elle travaille avec Les Autres Possibles. Et l'année prochaine, elle travaille avec Prune. Et en vrai, tant mieux. Et c'est bien pour les jeunes, en fait. Et c'est le principal.
Tout le monde acquiesce. Quelqu'un veut... Manon, tu voulais...
Je pense que c'est ça qui est un peu compliqué. C'est que à la fois, être journaliste, je pense que t'es peut-être la meilleure personne pour parler des médias, en tout cas. Mais en même temps, comme c'est de la pédagogie et comme c'est de la transmission, c'est aussi un autre métier. C'est un peu les deux casquettes qu'il faut avoir. Et donc, ça nécessite d'être formé. Mais comme tu le dis, Pierre, c'est que c'est... On est formé aussi par l'expérience plus que par une formation qui va durer une centaine d'heures et qui est destinée à des gens qui font soit déjà de l'éducation média, soit pas du tout. Donc, avec des niveaux très différents, avec des expériences différentes, etc.
FX de Fragile.
Sur la notion de légitimité à faire de l'éducation aux médias, il y a quand même, ce que moi je pense défendre, c'est cette idée qu'il faut juste avoir envie de le faire. En fait, rien que le fait d'avoir envie, ça va être de créer un espace de discussion autour des médias. Donc, on va prendre du temps pour parler de quelque chose auquel on parle rarement, en fait, entre citoyens. Et puis, on va se questionner. Donc, il y a cette idée de curiosité pour être légitime, voilà, être curieux, avoir envie de le faire, avoir envie d'écouter. Et à accepter de ne pas être d'accord directement avec les premiers propos qu'on pourra nous renvoyer, et savoir questionner ces propos, en fait. Et après, la culture médiatique qu'il peut y avoir autour sera toujours un plus, mais la vraie légitimité, c'est l'envie de le faire, je trouve.
Pierre-Adrien notait frénétiquement des choses sur son carnet.
Non, pas forcément, mais c'est juste pour aller vraiment dans le sens de ce que vient de dire François-Xavier. À partir du moment où on est dans une posture éducative, on peut faire de l'éducation aux médias. Et en fait, je parlais des parents tout à l'heure, mais je réinsiste là-dessus. C'est les premiers à faire de l'éducation aux médias au quotidien, quand il s'agit de mettre ou pas un écran devant les yeux de leurs enfants. Donc, je sais que les acteurs autour de la table aujourd'hui travaillent également en direction des parents, voire au-delà. Et à mon avis, il y a un enjeu très très fort en termes de public là-dessus. Moi, pour être investi pas mal à Fragile, je sais que ça fait longtemps que l'association Fragile a cogité à ces choses-là et porte des actions, même intergénérationnelles parfois aussi. Mettre des enfants et des parents devant des jeux vidéo et puis discuter de tout ça, ça ne nécessite pas une certification en termes de métier. Après, on peut aller plus loin en termes de technicité, effectivement, dans les technicités d'animation. Ça s'apprend, effectivement, de plein de manières, donc ok. Mais il suffit d'être en posture éducative et de parler de médias, d'information, en fait, pour faire de l'éducation aux médias et à l'information.
Régis Reynaud.
Je plus soi, ce que vient de dire Pierre-Adrien, FX. Pour moi, y a, à la base, il y a des valeurs, et je pense, alors sans très bien connaître plus que ça le journalisme, mais je crois qu'il y a, une valeur quand même d'avoir le souci de la véracité de l'information, enfin de l'authenticité, de produire quelque chose de vérifiable et d'authentique. Et il y a des croisements avec l'éducation populaire, les valeurs de l'éducation populaire. Et je pense que c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a autour de la table un certain nombre d'acteurs différents. Alors, il y a des médias, on l'a dit, puis il y a aussi InfoJeune qui n'est pas un média, je le rappelle. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a autour de la table réuni des acteurs qui vont ensemble favoriser, et je l'espère, c'est quand même un peu le but de cette démarche action-rédaction, de créer une véritable dynamique autour de l'éducation aux médias et l'information, avec des acteurs locaux qui sont investis, qui sont concernés, qui ont des publics différents, qui agissent sur des quartiers différents. Et l'idée de cette, à la base hein, de cette dynamique-là, c'était de vraiment créer quelque chose qui va pouvoir être reproduit et continuer. Enfin, on assiste à la naissance de quelque chose, enfin, je l'espère. Et c'est la pluralité de l'accès de l'éducation, des formes d'éducation et de l'accès à l'information qui en font la richesse, je pense. Voilà.
On va marquer bientôt une pause musicale. Est-ce que Barbara Fontard, vous vouliez dire un petit mot juste avant la pause, peut-être sur cette histoire de légitimité ou peut-être l'évolution qu'il y a pu avoir au niveau des acteurs, actrices de l'éducation aux médias?
Oui, alors la question de la légitimité, elle se pose à l'ensemble des acteurs qui font de l'éducation aux médias. Est-ce que je suis suffisamment journaliste? Est-ce que je suis suffisamment éducateur? Et ça a bien traversé l'ensemble des réactions là, des uns et des autres autour de cette question-là. Est-ce que voilà, j'ai à la fois les compétences en termes de fond et est-ce que j'ai les compétences en termes d'accompagnement des publics? C'est des choses qui traversent un grand nombre d'acteurs. Et dans le champ de l'éducation populaire, ce qui est intéressant, c'est de voir justement que on finit par ne pas créer des hiérarchies dans les formes médiatiques, et c'est peut-être là que l'éducation aux médias se pose moins en termes de légitimité du point de vue des acteurs, parce que il y a cette revendication à ne pas considérer certaines formes de pratiques comme plus légitimes que d'autres. En termes d'évolution, moi j'ai beaucoup apprécié la remarque sur le fait que les parents sont les premiers éducateurs aux médias, et c'est vrai que il y a des formes d'éducation média, des pratiques plurielles d'éducation média historique, c'est-à-dire qu'on n'a rien inventé en 2015, hein. Rien du tout, si ce n'est que c'est devenu, c'est un dispositif politique qui s'est renforcé, mais enfin l'éducation aux médias, c'est un dispositif politique qui existe depuis les années 70, et c'est une pratique qui existe depuis que les médias sont des médias. Donc ça fait très longtemps qu'il existe des formes plurielles par des acteurs pluriels d'éducation aux médias. Et c'est vrai que ne pas oublier que si les parents font de l'éducation aux médias, ils ne le font pas forcément de manière volontaire. C'est peut-être là que les choses se distinguent. C'est entre des acteurs d'éducation aux médias qui sont des professionnels de l'éducation et qui ont donc une volonté d'éduquer aux médias, et puis des parents où finalement on parlerait plutôt de socialisation aux médias, c'est-à-dire d'éducation plus ou moins volontaire. Moi, je me demande effectivement si vous êtes vous-même parent, on peut imaginer en tant qu'acteur de l'éducation aux médias que vous faites une éducation aux médias à l'égard de vos enfants qui est particulièrement volontaire. Je peux aussi me prendre comme exemple en tant que parent. Mais il y a des endroits où dans les familles, on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire de l'éducation aux médias, et c'est pour ça qu'il y a des formes d'éducation informelle aux médias. Mais il y a un acteur aussi très important, et je m'arrêterai là, c'est les copains et les copines qui sont aussi des acteurs de l'éducation aux médias.
Et on va continuer tout de suite sur cette thématique avec qui et de quoi on parle dans les ateliers d'éducation aux médias, de quoi peut-être on devrait aussi parler puisque c'est le thème de cette émission. Mais avant ça, on va marquer une pause musicale. Enfin, on écoute Yo Melo Meresco de Combo Chibita et on revient tout de suite sur Prune 92 FM.
Éducation aux médias et à l'information, quel avenir ? Sur Prune, 92 FM et prune.net.
Porque lo merezco. Si camino libre, salvo.
Vous êtes toujours sur Prune dans l'émission spéciale « Quel avenir pour l'éducation aux médias et à l'information ?» qui réunit Info Jeune avec Régis Reynaud, Fragile avec FX Jossé, Les Autres Possibles avec Pierre Mousset, Pierre-Adrien Roux, chargé d'éducation aux médias à son compte, ainsi que la chercheuse Barbara Fontard et Manon Delmas, directrice de Prune. Alors, on a parlé de nous en tant qu'acteurs, actrices de l'éducation aux médias. Il faut forcément parler de celles à qui on s'adresse. Alors, on pense comme une évidence un peu au public jeune lorsqu'on entend le terme éducation aux médias, ce qui, jeune, ne veut pas dire grand-chose en soi d'ailleurs. Est-ce que vous, dans les publics que vous visez, vous avez un public cible? Et si oui, pourquoi vous pensez que c'est ce public qui fait sens de viser en particulier? Et je vais mettre une deuxième question derrière, parce que je sais qu'ensuite, vous n'allez plus me redonner la parole. Est-ce que le fait qu'on dise que... Enfin, d'ailleurs, les politiques en première ligne, qu'il faut viser les jeunes, est-ce que ce n'est pas un peu stigmatisant et pas forcément juste sur la façon dont, en fait, les jeunes sont forcément... Enfin, sont réellement influencés par les médias? Ça fait peut-être beaucoup de questions en une seule, mais... FX de Fragile.
Ouais, je veux bien commencer par une anecdote sur cette idée de politique qui dit qu'il faut éduquer les jeunes. Certains politiques se font prendre au jeu des fake news assez régulièrement. Bon, y a quelques exemples sur des news du Gorafi qui étaient sorties en tant que vraie info. Donc oui, la jeunesse, c'est un point d'ancrage sur lequel, comme tout type d'éducation, bah, il faut aller fermement, c'est pas trop mon vocabulaire, mais en priorité, on va dire. Mais toute la population est concernée par l'éducation aux médias. On peut le voir, en fait, avec aussi, là, sur des campagnes de cyberharcèlement dernièrement, qui étaient des retraités qui ont cyberharcelé une professeure, des retraités d'extrême droite qui cyberharcèlent une professeure. Bon, bah, on est dans un cas de manque d'éducation aux médias, aussi, de ce qu'on ne peut dire ou pas sur des réseaux sociaux, au-delà de menacer quelqu'un, mais du coup de se dire que oui, ça peut tomber. Donc toutes les populations, à mon sens, en fait, doivent être visées par l'éducation aux médias. Et la première partie de la question, je suis parti. C'était les populations. Voilà.
Quelqu'un d'autre veut réagir, Manon, Telmas?
C'est un peu difficile à dire parce que ce terme un peu d'éducation aux médias et puis tout le rapport aux fake news, etc., il y a toujours un côté très moralisateur. Et donc, je ne sais jamais trop comment traiter ça, parce que d'un côté, oui, il faut apprendre à vérifier les sources, etc. Et puis, c'est toujours les jeunes qui sont visés. Et tout ça, on le fait dans un cadre, je trouve, assez scolaire, qui rend le truc encore plus un peu chiant, un peu moralisateur, comme l'est déjà l'école. Et je trouve qu'il faut sortir de ça. Et donc, l'éducation aux médias sous forme d'ateliers, de pratiques, c'est aussi une manière de plutôt d'amener le jeu, d'amener la confiance en soi, d'amener de l'envie, en fait, de ne pas voir ça comme juste un truc qu'on comprend et puis qu'on traite, mais pour ça, il ne faut pas se sentir dévalorisé. Et ça, je pense que c'est un peu le problème des institutions qui, justement, dévalorisent les jeunes et en font un peu comme si c'était des débiles qui prennent les nouvelles comme ça, comme ça arrive, quoi, et qui ne réfléchissent pas.
Pour aller dans ton sens, c'est Pierre des Autres Possibles qui parle. Pour aller dans ton sens, pour faire plein d'ateliers sur les fake news, au collège, lycée, moi j'ai l'impression que les jeunes maintenant, en tout cas quand on arrive et qu'on leur demande quels sont les codes pour vérifier une info, a priori maintenant ils sont au courant. Enfin, moi, jamais aucun jeune m'a dit « bah je sais pas ». A priori, ils savent maintenant. En tout cas, quand on leur demande, quand on est face à eux, ils savent. Après, est-ce que quand ils rentrent chez eux et qu'ils sont face à leur téléphone, ils prennent le temps, etc. Moi, je suis plus derrière eux, mais en tout cas, bah, pendant 2 heures, on se sera entraîné. Et ils garderont ça, mais moi je pense qu'on n'en est plus à cette phase de sensibilisation. Maintenant, c'est vraiment plus de la pratique pour ce qui est des fake news. Après, l'éducation média, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que les fake news. On va peut-être y venir sur les autres thématiques à aborder.
Régis Reynaud.
Ah oui, je voulais juste réagir par rapport à ce que vous venez de dire, et je suis tout à fait d'accord. Après, c'est une espèce de jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que les producteurs d'infos, je dirais toxiques, savent très bien qu'il y a une acculturation à ce qu'est à la vérification de l'information, et donc du coup, se mettent à produire des contenus qui sont de plus en plus difficiles, dont la toxicité est de plus en plus difficile à déceler. Alors, je pense par exemple à Réinfo. Toute cette dynamique dont parlait Pierre-Adrien tout à l'heure, qui peut berner même des professionnels, et on le voit assez fréquemment. Alors, sinon, pour répondre à la question de base qui était le public cible pour ce qui concerne InfoJeunes Pays de la Loire, nous, on a un public qui est assez défini, c'est les 15-30 ans à peu près. Hein, et au contraire de certaines autres institutions, on n'a pas de limite. C'est-à-dire que si un jeune à 13 ans vient nous voir, on va lui ouvrir notre porte. Enfin, il va pouvoir pousser la porte et nous parler. De même qu'un jeune de 32 ans ou 48 ans, s'il veut nous parler, il peut nous parler aussi. Moi, étant moi-même très jeune, j'aime bien parler info jeune. Non, et donc, ça rejoint aussi ce que disait Pierre-Adrien tout à l'heure. On a aussi une action, on reçoit beaucoup de parents, d'appels de parents ou d'emails ou de coups de téléphone ou de visites, parce qu'on sait très bien que les parents sont les premiers vecteurs d'accès à l'information. Et sinon, pour ce que vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas si une stigmatisation des jeunes dans les institutions. Mais c'est vrai que, heureusement que l'éducation populaire existe, heureusement que le journalisme indépendant existe, parce qu'après, il y a d'autres questions, hein, sur les médias, sur le journalisme, etc. C'est quand même très lié à des intérêts économiques, à des enjeux politiques, il y a des orientations, voilà, il y a quand même des choses, même si on ne parle pas des informations, il y a quand même des éclairages qui peuvent être très différents suivant les médias, pour une même information. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias ont une influence considérable sur la vie des jeunes, en tout cas pour le public qui concerne le CRIJ, enfin InfoJeunes, pardon. Pour le public qui concerne InfoJeunes, c'est une influence considérable. Donc nous, on est quand même ici, enfin nous, InfoJeunes, on est un peu un des leviers des politiques publiques pour la jeunesse, puisqu'on est... On travaille beaucoup avec l'État, avec la ville de Nantes, avec le département, enfin avec les collectivités territoriales. Donc on fait partie d'un mouvement qui consiste à côté de l'éducation nationale, en dehors de ces parcours-là, à amener les publics vers l'autonomie et l'accès à l'information.
Alors pour enchaîner sur les thématiques, puisque c'est quand même assez inévitable de se demander de quoi on parle quand on fait de l'éducation aux médias, on commençait forcément à parler des fausses informations, puisque c'est l'image qui revient toujours quand on parle d'éducation aux médias. Et justement, Barbara Fontard, avant l'émission, vous me disiez que votre sentiment était que les thématiques étaient parfois dictées par un agenda justement un peu politico-institutionnel. Et du coup, je voulais que vous reveniez là-dessus et que vous nous disiez dans quelle mesure... selon vous, parfois on peut répondre à des attentes qui viendraient de plus haut, enfin voilà, dit comme ça.
Oui, et ça renvoie aussi à la question de la stigmatisation des publics aussi, hein, parce que quand en 2015 il y a les attentats de Charlie Hebdo, et puis en 2019, si je ne dis pas de bêtises, l'assassinat de Samuel Paty, il s'agit bien en fait de rééduquer certains jeunes aux médias qui seraient en fait des jeunes mal éduqués, pas éduqués, conspirationnistes, voire qui remettraient en question la République et l'institution. Donc, je crois qu'il ne faut pas se leurrer sur tout ce dispositif qui a été remis à l'agenda depuis 2015 et qui a une visée quand même républicaine, mais qui s'adresse en priorité à certains publics jeunes sur certains territoires. Je crois que ce serait un peu hypocrite que de ne pas le dire, hein. Après, du coup, il y a cette focalisation sur les thèses conspirationnistes, les fake news, etc. Il faut savoir tout de même que la désinformation est une extraordinaire arme de guerre, qu'on n'a pas attendu 2015 pour entendre, enfin, pour que le travail et les questionnements autour de la désinformation soient au cœur des travaux de recherche en particulier, et que la désinformation, elle sert surtout des groupes politiques. Et donc, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, la désinformation, c'est pas arrivé avec les réseaux sociaux numériques. Je veux dire, la désinformation, je le redis, c'est une arme de guerre extraordinaire. Et depuis que nous fonctionnons en civilisation qui cherchons à étendre notre pouvoir, eh bien, la désinformation est utilisée dans les cas de tous les conflits. Historique, hein, je veux dire, et les premières manifestations de désinformation, je crois qu'on les a vues en Chine à l'ère 1, voilà, et puis en Russie ensuite. Donc, effectivement, il y a eu cette focalisation sur cette thématique à partir de 2015, mais bon, qui, moi, je crois, et c'est ça qui est intéressant, est aussi une opportunité finalement pour les acteurs des médias ou de l'éducation populaire portée sur l'éducation aux médias pour faire des actions d'éducation aux médias. Moi, il me semble surtout que ce qui se passe depuis quelques années autour des financements et du fait qu'il y a de plus en plus de possibilités d'avoir des actions financées en matière d'éducation aux médias sont à prendre pour justement proposer des formes d'éducation aux médias pluriels qui ne visent ni à stigmatiser les publics, ni leur rapport aux médias, et à ne pas se focaliser sur le conspirationnisme ou les fake news. Bon, je ne sais pas si je réponds pleinement à votre question, Constance, je suis un peu partie dans tous les sens. Mais...
Si, complètement. Pierre Mousset ?
Si je peux rebondir sur ce que vous dites, moi je ressens tout à fait ça. Je ne sais pas si on devrait le dire, mais effectivement, aux autres possibles, je pense que l'activité fake news, théorie du complot, pour la partie éducation média, c'est peut-être 15-20% de notre activité. Et le reste, on va travailler sur tout un tas d'autres sujets qui nous tiennent à cœur. Je pense à la lutte contre les discriminations. En juillet dernier, avec des jeunes d'une maison de quartier, on a fait un journal et ils ont pu interviewer une influenceuse sur la grossophobie, une personne aveugle qui a expliqué comment il se promenait dans la ville avec son chien guide d'aveugle, et une autre personne, une gameuse qui revenait sur la difficulté d'être une femme dans le milieu du jeu vidéo. Et à la Toussaint, là, il y a quelques semaines, on a fait un journal sur le climat avec une interview d'un membre du GIEC Pays de la Loire. Voilà, c'est vraiment autre chose, complètement autre chose. Mais effectivement, vu que l'État, si je caricature, ouvre un petit peu les vannes pour faire de l'éducation aux médias, nous, on s'engouffre dans la brèche et on va dire, OK, pour nous, l'éducation aux médias, c'est beaucoup plus large. Et ça inclut le climat, ça inclut les discriminations, etc., etc. Et on ne va pas être en posture stigmatisante avec les jeunes, mais on va leur donner les armes, les outils pour qu'eux fassent du journalisme et en cela apprennent à découvrir un petit peu les médias. Et pour ça, après, une fois qu'on leur a donné ça, ils peuvent enquêter sur ce qu'ils veulent autour d'eux, quoi. Et c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire.
Et alors justement, peut-être pour élargir sur les thématiques et aussi sur l'avenir, est-ce que vous pensez qu'à un moment, on va finir par être, entre guillemets, dépassé ? Parce que tout à l'heure, tu disais les fake news, c'est bon, ils savent, de façon caricaturale. Hein, de fait, nous aussi, il faut qu'on s'adapte aux pratiques numériques, etc. Je lisais un article justement sur l'éducation aux médias qui parlait, je cite, hein, de la frilosité à s'emparer de nouveaux espaces de traitement de l'information, les intelligences artificielles, les algorithmes, les espaces immersifs, etc. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez ? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait être... dépassé, alors je regarde FX qui en parlait tout à l'heure.
Je me sens un peu concerné justement sur sur Fragile. En fait, on produit assez régulièrement des billets ou en tout cas des articles autour de l'éducation aux médias. Et cette semaine, j'ai produit un article autour d'une interview d'un chatbot. En fait, il y a eu un buzz ces derniers temps autour d'un chatbot qui s'appuie sur une intelligence artificielle. Et justement, j'ai posé des questions à ce chatbot autour de l'éducation aux médias, de ce que ça peut créer comme potentiel. facilité à créer des fake news, d'utiliser une intelligence artificielle, de comment on repère en tant qu'humain un texte qui n'a pas été écrit par un autre humain. Donc ça, il y a un article sur Fragile que vous pourrez aller lire si vous voulez, autour de différents éléments qui peuvent permettre d'amorcer des processus de réflexion autour de notre rapport aux textes écrits par des intelligences artificielles. Après, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour faire de l'éducation média, il va falloir de toute façon être en veille constante sur l'actualité, oui, les sujets d'actualité, mais aussi les manières de produire cette actualité. Et en fait, on ne fait pas de l'éducation média comme on en faisait dans les années 80 et on n'en fera pas dans les années 2040 ou 2050 comme on en fait aujourd'hui. Donc se sentir dépassé, c'est une crainte qui est tout à fait légitime, mais à condition, enfin si on reste en fait en veille perpétuelle, il n'y a pas de raison pour être dépassé. Je rajouterais quelque chose sur aussi la prise de conscience des dynamiques de pouvoir. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça reste quand même à mon sens un élément clé pour commencer l'éducation média, c'est de se dire il y a des dynamiques de pouvoir qui sont aussi présentes dans la création des médias, la diffusion de l'information, de se dire qui crée une information, à quelle fin, comment elle est créée, avec quels moyens. Est-ce que, par exemple, là on peut prendre les empires Bolloré et leur effet sur l'information, il y a des dynamiques de pouvoir financier, politique, idéologique. Et ça, en fait, il faut aussi accepter qu'il y a des dynamiques de pouvoir dans tous les champs. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va pouvoir faire de l'éducation aux médias. Voilà.
Régis Reynaud.
Oui, je trouve la réflexion sur l'IA, l'intelligence artificielle et les chatbots très, très intéressante. Je trouve très, très pertinent d'avoir interrogé une IA sur l'éducation aux médias. Mais c'est vrai qu'il faut, pour tous les acteurs du champ de l'éducation, essayer de se tenir quand même informé, un peu up-to-date sur ce qui se passe et sur les usages et sur tous les nouveaux aspects. Je citais juste un exemple. Moi, il m'est arrivé de me faire berner totalement par un deepfake, par exemple. Enfin, la première fois que j'ai vu, alors je ne sais plus qui c'était, Tom Cruise, m'expliquer qu'il jouait au tennis, je me disais, c'est marrant, il a 20 ans de moins, il a l'air en forme et tout ça, et il parle bien. C'était juste un deepfake, en fait. Et je me dis, il m'a fallu quelques minutes ou secondes pour réaliser, mais effectivement, les moyens de l'apparence de la vraie info sont de plus en plus puissant, et ce qui fait que nous, il faut absolument qu'on développe une vraie dynamique, une vraie, alors pas une certification, mais une vraie dynamique, une vraie sensibilisation, et je pense qu'elle ne peut être que pluri-actorielle, je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, il vient de naître, voilà, c'est bientôt Noël, et voilà, il faut qu'on soit, plus on est d'acteurs différents, et plus la lutte sera riche et prolifique. Voilà.
Manon Delmas.
Je suis d'accord avec cette idée d'expertise, qu'il faut continuer à avoir de la veille, etc. Mais c'est aussi des publics avec lesquels on travaille. En fait, si on travaille avec des jeunes, ils savent se servir des outils. Et en fait, ils nous apprennent à le faire. Souvent, moi, j'entends parler d'un truc, après, ils vont... avec des gens qui vont être plus jeunes que moi, par exemple, et puis après, je vais me renseigner, etc. Mais c'est vraiment partir des gens qui les utilisent, en fait, au quotidien, et qui suivent toute cette actualité.
Effectivement, la veille va dans tous les sens, en fait. Ce n'est pas forcément une veille d'experts, c'est une veille aussi d'écoute avec les différents publics, totalement.
Et je pense qu'on peut aussi... se rassurer si on a peur de ne pas être légitime, en se disant que l'expertise entre guillemets qu'on a, qui est celle de décrypter l'info, comment elle est produite, etc., ça elle vaut quel que soit le média, que ce soit un JT, que ce soit un papier de Voix de France, ou que ce soit une story d'Hugo Décrypte. Alors peut-être qu'effectivement les jeunes vont plus consommer du Hugo Décrypte, mais par contre dans ce qui est du décryptage de l'info, ils auront peut-être toujours besoin de nous pour essayer de comprendre, voilà, par exemple, est-ce que Hugo Décrypte, il est neutre et objectif quand il nous présente ses 5 infos du jour ? Peut-être pas, peut-être que dans son choix, il a déjà une sorte de ligne éditoriale, etc. etc. Ça peut être quelque chose qu'on peut leur amener à toucher du doigt.
Et je voudrais juste rebondir sur, il y a effectivement ça, mais c'est aussi en leur amenant en fait, les outils pour les faire, et surtout de la confiance en soi, c'est de leur dire, c'est... En fait, c'est eux qui font aussi les médias. Donc, c'est aussi de leur dire, bah, vous pouvez prendre la parole. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de raison de se sentir dépassé ou quoi, puisqu'on les amène juste, eux et elles, à avoir confiance dans ce qu'ils disent.
Pierre-Adrien.
Ouais, c'est ce qui me paraît être le plus important. Pour moi, la finalité vraiment de l'éducation aux médias, c'est ça, hein, c'est d'être son propre média, c'est de produire de l'info au final. Produire de l'info. En tout cas, s'emparer des médias en y ayant réfléchi. Voilà. Alors, produire de l'info, voilà, au sens large du terme information. Et du coup, on a un rôle, pour revenir à la question un peu des publics, vite fait, on a un rôle important vis-à-vis de publics qui sont absents des médias qu'on connaît, des médias généralistes, des médias voilà, traditionnels, vous mettez le terme que vous voulez là derrière. Mais en gros, quand Fragile dans le quartier d'Hervalière, par exemple, là où ils sont installés et où ils permettent à des jeunes d'ouvrir, tu me corriges, hein, et fixe si je ne suis pas juste dans ce que je dis, d'ouvrir un compte Instagram et de s'exprimer à travers une méthode journalistique sur leur quotidien, sur leurs relations entre les uns et les autres, sur, je ne sais pas, les relations intergénérationnelles, je crois qu'il y a un projet en ce moment là-dessus. Peu importe la thématique, en fait. Nous, on amène la compréhension des outils, le regard critique, et après, c'est à eux d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Là, je parle sur des projets particuliers, mais à mon avis, les thématiques ne sont pas si importantes que ça. Voilà.
Eh bien, il nous reste quelques minutes pour aborder l'épineuse question des moyens. Je mentionnais brièvement en introduction pas mal de circulaires, mais finalement pas tant de moyens. Cette année, à la fois des professeurs documentalistes, mais aussi des acteurs-actrices de l'éducation aux médias ont adressé des lettres ouvertes au gouvernement. Une des dernières, c'est le 31 mai dernier. Il y a 50 associations et 100 personnalités impliquées dans l'éducation aux médias qui ont interpellé Emmanuel Macron pour créer, alors là je vais citer, un fonds éducation aux médias et à l'information qui pourrait être financé par l'État et par une fraction de la taxe sur les entreprises numériques et permettrait de soutenir les acteurs de terrain en relation directe avec les pouvoirs publics, les élus, à l'échelle nationale et locale. Alors j'ai vérifié, aucun de nos médias, de nos structures a priori fait partie des signataires, mais est-ce que selon vous ça pourrait être un début de solution ou alors comment envisager l'avenir en termes de moyens si vous trouvez qu'il faut améliorer des choses sur ce point-là évidemment?
Moi, je connaissais pas. Je vais en parler à mon équipe et je pense qu'on va signer. Non, effectivement, il y a un petit point sur la question du financement parce que, enfin, en tout cas, nous, on ressent une petite tension entre des autorités, disons, qui nous poussent, qui nous encouragent, qui nous félicitent. Bravo, c'est très bien ce que vous faites, c'est très important. Faites-en plus, etc., etc. Sauf que, en fait, les publics avec lesquels on travaille n'ont pas d'argent pour financer ça, ou très peu. Et du coup, c'est à nous d'aller chercher des subventions pour porter ces projets-là. Or, en fait, le temps qu'on va passer à chercher des subventions, c'est du temps qu'on passera pas sur le terrain avec les publics. Et du coup, parfois, on a l'impression de plutôt courir après les subventions que à être avec les jeunes et les moins jeunes pour faire notre métier. Et c'est un peu, ça peut être un peu usant. Si vous voulez vraiment qu'on s'investisse à fond dans l'éducation aux médias, peut-être qu'il faut plus nous soutenir et que ce soit un peu plus simple.
Pierre-Adrien.
Alors, dans les acteurs de l'éducation aux médias, il y a les acteurs associatifs, et parmi lesquels les médias associatifs. Donc c'est vrai que là, autour de la table, on raisonne beaucoup à travers ce prisme-là des médias associatifs. Déjà, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais si on reste sur cette typologie d'acteurs associatifs, généralement, c'est pas le cas d'InfoJeunes pour le coup, mais généralement, ce sont des petites structures qui vivent grâce à des contributions bénévoles et à des contributeurs et des contributrices bénévoles, et qui ont généralement 3, 4 salariés, hein, si je prends les structures qui sont autour de la table aujourd'hui. Du coup, on a effectivement des gens qui s'investissent dans ces structures plus que de raison, très souvent, qui donnent vraiment beaucoup d'eux là-dessus. Et c'est pas forcément viable, effectivement, à long terme. Alors oui, il faut plus de moyens. Je suis pas persuadé qu'il faille tout le temps rechercher de l'État ces moyens-là. Voilà, parce que je pense qu'il y a aussi des choses pernicieuses dans les appels à projets, dans ces choses qui peuvent nous mettre en concurrence et en difficulté. Voilà, toujours, on connaît la dynamique des appels à projets où il faut rentrer dans un moule. Des fois, c'est bien, des fois, on peut en sortir une fois qu'on est dedans, des fois ça colle aussi, voilà. Bon. Mais ça peut nous mettre plus en difficulté, et du coup, moi je suis ravi de ce qui s'est passé avec les acteurs ici présents cette semaine, parce qu'en fait l'enjeu il est là, il est de se regrouper avec nos compétences diverses et variées, nos complémentarités, pour aller au-delà des pouvoirs publics, rechercher de nouveaux financements, mais pas que des pouvoirs publics aussi, voilà. Et je pense que la clé elle est là, en tout cas si on raisonne du point de vue des acteurs associatifs.
Nous, par exemple, à Fragile, c'est vrai qu'on n'est pas trop en difficulté financière. On est 3 salariés à faire quasiment à temps plein de l'éducation aux médias. On pourrait se dire que tout va bien pour nous. Mais en fait, c'est vrai que on atteint peut-être aussi des limites avec du manque de moyens en termes d'horaire dans des classes. Là, c'est vrai que les heures allouées à des possibilités d'intervention en termes d'éducation aux médias sont limitées. Donc là, est-ce qu'il faut rajouter plus d'heures dans les classes au détriment de quelle matière, du coup ? Il y a beaucoup d'enjeux comme ça qui vont émerger sur où est-ce qu'on place l'éducation aux médias, qui est assez révélée en fait par les revendications des profs doc, en fait, qui sont des professeurs à part entière, mais qui n'ont pas forcément le temps pour faire ces actions d'éducation aux médias. Et puis, est-ce que l'éducation aux médias, c'est juste 2 heures par semaine pendant 3 semaines ? Voilà, ou est-ce que ça doit être partout, tout le temps, parce que même quand on fait des maths, il va falloir savoir que 30% de... On connaît les algorithmes, savoir lire un pourcentage, parce que ça va nous aider dans notre lecture de l'information. Donc, il y a d'autres choses qui vont se jouer en termes d'enjeux et de moyens que purement financiers, là, pour le coup, j'ai l'impression.
Je suis désolée, mais on va devoir s'arrêter là. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Alors, on l'a vu, il reste de nombreuses choses à dire, à inventer, réinventer concernant l'éducation aux médias. On retient peut-être une nécessaire pluralité à la fois des actrices, des thématiques, des façons de faire. On s'accorde aussi, je pense, sur l'idée de rester en constante remise en question de nos pratiques, de nos thématiques, de nos façons de faire, de nos savoirs, puisque c'est aussi ce qui nous permet de nous adapter tous les jours au terrain. Merci beaucoup à tous et toutes, donc Manon Delmas pour Prune, Pierre Mousset des Autres Possibles, François-Xavier de Fragile, Pierre-Adrien, Régis Reynaud d'InfoJeune, d'avoir été sur ce plateau. Encore un immense merci à Barbara Fontard, donc enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation à l'Université de Rennes 2. On va continuer, je pense, à interroger le futur de l'éducation aux médias, mais en attendant, on vous laisse avec la playlist de Prune. Tout à l'heure, à 18h, vous retrouverez votre émission d'actu locale Curiosité. Ce sera la dernière de l'année. Très bon après-midi. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Éducation aux médias et à l'information, quel avenir ? Retrouve le podcast de l'émission sur prune.net.